Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cette table ronde qui va parler de flics robots policiers. Et pour parler de ce sujet passionnant, j'ai autour de moi un panel d'élite constitué de Sylvie Allouche, qui est philosophe, spécialiste du transhumanisme, entre autres, et qui est enseignant-chercheur à Lyon. J'ai Claude Ecken, qui est auteur, grand auteur de science-fiction. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a écrit parce que ça, ce serait trop long. Je ne vais pas non plus vous dire tous les prix qu'il a gagnés parce que ce serait trop long. Mais Claude va pouvoir nous faire partager sa connaissance de la science-fiction et des robots policiers. Je compte sur lui. Et puis Estelle Faye, qui a une carrière multitâche, puisqu'elle a été comédienne. Je ne sais pas si tu l'es encore.
Non, je suis passée de l'autre côté, maintenant c'est plus drôle.
Comédienne, auteure, et dont le dernier ouvrage paru, c'est La Voix des Oracles, si je ne me trompe pas, voilà. Et qui sera, comme toutes les personnes présentes ici sur scène, je préfère le dire tout de suite parce que parfois on oublie en fin de séance, ils seront en dédicace tout de suite après.
Donc n'hésitez pas. Non, en fait, ils ferment la librairie, donc pour une fois, on ne sera pas en dédicace
tout de suite. Bon, vous ne serez pas en dédicace tout de suite après, donc c'est trop tard si vous n'êtes pas allé acheter leurs livres avant, mais vous pourrez toujours les acheter en librairie un peu plus tard.
Enfin, la librairie sera ouverte, mais il faudra juste nous choper dans le festival pour nous faire dédicacer.
Voilà, merci de ces précisions. Et donc, pour lancer le sujet, il me semble que Claude nous a préparé quelques petites vidéos.
J'ai juste récupéré quelques images et quelques vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver, que vous connaissez certainement, si vous suivez un petit peu cette actualité, pour un petit peu cadrer le débat sur ces robots policiers et sur ces machines destinées au contrôle, à la guerre et qui sont donc des robots à des fins létales. Alors le premier, il y a une...
Alors attends tout petit peu qu'on lance la vidéo. Ouais. Est-ce que c'est possible de basculer l'écran?
Juste au début, soyez bien attentifs parce que j'ai dû raccourcir certaines vidéos. Voilà, donc on verra un animal courir à très grande vitesse, mais on le voit à peine. On a à peine le temps de le remarquer celui-là.
C'est parti.
Ouais, un animal.
This is a very exciting. This is the LS3 robot.
Attendez, which is designed je baisse, voilà.
Rugged terrain.
Donc ça, ce sont les machines de Boston
This is
Dynamics.
The big dog robot that can recover its balance when kicked.
Qui sont destinés évidemment aux militaires. Alors ça, ce n'est pas une machine de guerre, c'est ce qui permet de porter le paquetage des militaires. Ça peut supporter donc de grandes charges, ce qui fait que les gens sont assez soulagés et avec une puce que vous emportez avec vous, il est capable, oui, on peut couper le son, il est capable de suivre sa troupe et ce qui fait que donc et de courir aussi. Alors le Petman est donc un robot. Ça y est, tu y es. Un robot humanoïde qui, lui, pouvait marcher dans des environnements difficiles du genre...
Ça arrive.
Il fallait prendre la précédente.
Non, c'est bon.
Ça fait rien. Ça, c'est un autre, voilà.
Voilà, il faut le temps que ça arrive. Hein.
Donc ça, par contre, c'est un petit peu... Ça a l'air déjà plus méchant et plus dangereux. Même couché, ça peut se relever. Le précédent que l'on voyait pouvait marcher sur la glace ou sur des pentes avec des feuilles mouillées. Il récupère son équilibre sans arrêt. Donc cela peut avoir une certaine vitesse. Donc voilà une autre machine qui, elle, est dans les environnements difficiles. Alors bien sûr, ça peut servir à chercher des gens dans les décombres parce qu'il peut éviter les trous et les pièges. Par contre, évidemment, il pourra se promener... sur un terrain de guerre. Voilà. Hein. Continue.
J'ai fini là.
Oui, mais ça continue. Il y a une vidéo suivante, non ça...
Non, j'ai écossé de là. Attends, j'essaye de te trouver la troisième.
Ah, il faut que tu relances à chaque fois.
Il y en a une troisième.
Je crois. Mm-hmm. Il y en avait une première au début.
Machine autonome.
Donc les drones, vous les connaissez, bien sûr. Mais l'intérêt, c'est de les faire voler tous ensemble. C'est la même chose que pour un banc de poissons ou un vol d'étourneau. Ils ne se cognent pas. Donc, on pensait que ça devait être très difficile, mais il ne faut pas que chacun ait la conscience de l'autre. Donc, on arrive à écrire maintenant des algorithmes. Bon, voilà, ça, c'est Aldébaran Robotics qui permet d'avoir des formations. OK. Et avec un vol assez fluide, hein, c'est assez impressionnant aussi. Il y a des choses que vous ne verrez pas. Il y a par exemple des robots fuisseurs qui peuvent s'enfoncer tout seuls dans le sable. Il y a des robots de la taille de cafards qui peuvent ramper dans des canalisations ou dans des égouts et qui peuvent ressortir de l'autre côté. Alors ça peut aussi bien filmer, surprendre, mais ça peut aussi envoyer peut-être, je sais pas, des bactéries. On peut faire ça. Et donc il y a des images après, je crois. Alors voilà. Ce n'est pas tout neuf, parce que dès le début, là nous sommes en 1924, je crois, nous avons déjà des idées de Robocop. Ça, c'est Hugo Gernsback dans une de ses nombreuses revues, Science and Invention, où il présente déjà un robot anti-émeute destiné à repousser les foules. Si vous voyez bien la partie noir et blanc, bon, le robot vous explique un petit peu comment il marche, mais vous voyez bien les gens reculer devant la petite image, et le grand robot, il a une sorte de bras articulé fait de matraque qui tourne sans arrêt, histoire de taper sur les gens. Donc, ce n'est pas nouveau que l'on avait imaginé des machines, et là, ce n'est pas à des fins de guerre, c'est bien pour régler une émeute en milieu urbain, quoi. Donc, révolte sociale. Voilà, on a fait un petit peu le... on a planté le décor. Voilà. Et je te laisse la parole.
Oh non, moi je laisse la parole aux autres intervenants. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ces images ?
Bah, disons, là on a planté le décor, beaucoup des robots réels. Maintenant, il y a les robots dans l'imaginaire. Et alors là-dessus, en fait, je vais me servir de ma troisième casquette, celle que Estelle n'a pas évoquée. Désolée, Estelle. C'est à côté, je fais un peu de scénario et surtout, je suis une femme geek. Donc, c'est les robots. On parlait de Robocop dans l'intitulé de la table ronde. Il y a aussi donc les robots au cinéma. Et en effet, le flic robot a une existence au cinéma, mais qui est assez particulière. Qui est que finalement, c'est comme si on partait du principe que de toute manière, le policier robot était une mauvaise idée de base. C'est-à-dire que Robocop, c'est déjà l'ingénieur propose un policier robot, ça marche pas, il y a un autre ingénieur qui va proposer un policier à moitié humain déjà. Donc finalement, le policier robot très vite est mis en question par le cinéma, par l'imaginaire. Et en même temps, l'idée revient régulièrement aussi avec plus tard des films comme Chappie, je ne sais pas si vous avez vu. Où cette fois, donc, une force de police robotique va avoir un de ses membres qui d'abord va devenir gangsta et ensuite va s'humaniser. Et toujours, en fait, au travers du policier robot, on interroge deux choses. Finalement, on interroge à la fois le fantasme d'un ordre qui serait débarrassé de la part humaine, de la part aléatoire, et d'un autre côté aussi, on interroge la fusion possible de la machine ou de l'humain ou l'humanisation de la machine. Et finalement, le policier robot soulève... beaucoup de questions aussi, et finalement se détache très vite de ses pendants scientifiques pour aller vers des pendants philosophiques et politiques qui, je pense, vont parler à notre troisième panéliste.
Je suis invitée à parler. Donc,
ça dérange pas.
Moi, ce qui me, merci en fait d'avoir abordé la question sous ce biais, parce que évidemment, quand on voit le flic robot de Robocop au drone. Robocop, c'est pas un robot, c'est en fait un cyborg. Hein, mais donc effectivement, j'avais plus en tête ce détail. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais effectivement, au début de l'histoire, ils ont d'abord un flic robot, qui est entièrement robotisé, et il s'aperçoit. Alors, je me souviens plus exactement pourquoi, mais que c'est pas satisfaisant.
C'est très simple. Alors, la première scène où on présente le flic robot dans Robocop. Désolé s'il y en a qui le connaissent par cœur dans la salle. C'est en gros, il entre dans la salle du conseil d'administration, le flic robot. Il pointe son pistolet sur un ingénieur. Là, on est censé arrêter le flic robot, sauf que ça ne marche pas, ça s'emballe. Et il écrase l'ingénieur sur la maquette de la nouvelle ville de Détroit que veut construire la méchante compagnie. Dans une gerbe de sang et d'hémoglobine, comme seul Verhoeven sait les faire.
Oui, c'est ça. Donc, il y a l'idée que dès le début, en fait, la machine... Alors, c'est le thème classique de la machine qui échappe à son créateur. Et on se dit qu'il vaut mieux... C'est intéressant, hein, parce qu'il vaut mieux... Même si on veut robotiser la police, il faut lui garder une part d'humanité. Et donc, on va faire Robocop. Et après, il y a tout un tas de questions effectivement très intéressantes qui se posent dans Robocop sur l'humanité du robot. Et je pense que ça, c'est une question qui traverse toute cette problématique. Parce que vous avez ça aussi dans... Alors, dans dans les mangas, et notamment dans tous les mangas de Masamune Shirow, donc qui est notamment l'auteur de Ghost in the Shell, mais qui est aussi l'auteur d'une autre série, dont là tout de suite j'oublie le nom, mais qui met en scène des mechas, hein, dont des Goldorak, voilà, des robots qui des mini Goldorak en l'occurrence. Et il y a cette problématique en tout cas dans Ghost in the Shell, elle est extrêmement importante, puisque dans Ghost in the Shell il y a toute la question. Alors il y a à la fois la BD donc de Masamune Shirow qu'il faut prendre en compte, il y a l'animé de Mamoru Oshii, donc Ghost in the Shell 1 et Ghost in the Shell 2 Innocence, et il y a aussi la série qui est encore un troisième élément de cet univers transmédiatique. Et donc l'une des questions les plus intéressantes qui est posée dans Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, donc le film, c'est, et j'ai même écrit un article dessus, c'est la question que le personnage principal, qui s'appelle le Major Kusanagi, elle se pose elle-même la question de sa propre humanité, parce qu'elle a tellement... Enfin, son corps a été tellement entièrement robotisé, et elle ne sait plus exactement... Et il lui reste, en réalité, il lui reste que quelques neurones, et donc elle se pose la question de savoir est-ce que... D'abord, ces neurones sont vraiment là, et est-ce qu'il lui reste quelque chose d'humain ? Mais il y a aussi donc quelque chose de très intéressant à mettre en regard qui apparaît plutôt dans la série, donc, où là, il y a dans les petites séquences... je suis sûre qu'il y a des spécialistes qui se souviennent mieux que moi des noms exacts, mais il y a les petites séquences conclusives de la série qui mettent systématiquement en scène des robots qui, eux, sont pleinement robots et qui sont des robots des robots policiers et qui accèdent même à une sorte d'humanité. Et alors, dernière... cette question donc, qui traverse alors, la fiction, mais elle traverse aussi le réel, parce que toute la problématique de l'utilisation des drones, en tout cas par l'armée américaine, alors là on n'est plus exactement dans la thématique de la police, mais bon, c'est connexe. Aujourd'hui, les drones sont essentiellement télécommandés. C'est pas des robots dans le sens où c'est pas des entités autonomes, même si c'est à l'étude et qu'il y a parfois un tout petit peu d'autonomie qui leur est donnée. Aujourd'hui, pour autant que je sache, les décisions capitales de décider si on tue quelqu'un ou pas, est-ce que c'est un enemy combatant ou est-ce que c'est un civil, des humains qui le décident, et qui le décident depuis leur ranch au Texas, alors qu'ils agissent sur un terrain qui est à des milliers de kilomètres. Et donc il y a cette hybridation homme-machine, elle a aussi lieu de cette manière. Voilà, puis je vais arrêter, j'ai déjà bien assez parlé comme ça.
Il y a un film sur le sujet qui s'appelle Good Kill, de Andrew Niccol, qui présente justement ça, le militaire qui est aux États-Unis, et la base militaire se trouve dans un endroit désertique. Il y a une série de cabanons, et donc il vient tous les jours s'asseoir devant un écran pour piloter un drone et lancer des bombes en Afghanistan. Alors en même temps qu'il surveille avec les visions par satellite, il peut tout voir. Il voit par exemple une femme qui se fait régulièrement violer par quelqu'un, et ça commence à poser justement le problème de ce que l'on fait avec ce genre d'outils. Soit on s'en sert pour la guerre et on va lancer une bombe sur les extrémistes qui se réunissent à tel endroit, avec peut-être le problème qu'un gamin passe dans le champ juste au mauvais moment et qu'on ne l'avait pas remarqué. Soit on a aussi envie d'intervenir et d'aider quelqu'un, alors que ça n'a pas du tout son rôle, il n'a rien à faire et il peut intervenir. Donc là, oui, on a tous ces problèmes éthiques sont déjà posés dans ce film, et ils se sentent très, très mal à l'aise, en fait, de mener une guerre de cette manière-là, sans vraiment être militaire, sans vraiment être sur le terrain, et de le faire à distance depuis les États-Unis. Ceci dit, un Robocop, c'est juste, donc, oui, comme tu disais, un humain. Moi, j'ai l'impression que ça me fait penser au chevalier du Moyen-Âge. Il a une armure. Et c'est un justicier. Bon, là, c'est un policier, mais on peut avoir un justicier, c'est Iron Man.
C'est pas vraiment la même chose, parce que Robocop, justement, et notamment dans Robocop 2 de Kirchner, qui est assez injustement très dévalué par rapport au Robocop de Verhoeven, je trouve. On va plus loin dans le jeu entre l'humain et le robot. Et notamment, donc, la société qui a fait Robocop le reconditionne dans le 2 en lui donnant toute une série de directives, notamment donc, toujours faire un sondage d'opinion avant de s'exprimer, ce genre de choses, qui font que, quelque part, ces directives qui ressemblent un peu finalement au code de conduite Facebook de nos jours. C'est comme si on disait on va avoir une grille des comportements humains, ou plutôt des comportements acceptables. Et comme l'humain n'est pas lui-même capable de gérer ses propres comportements acceptables, on va déléguer ça à une machine. On essaye vraiment de faire de Robocop une machine dans le 2, en lui déniant toute humanité. Et finalement, il y a cette superbe scène où il se libère en allant se griller les doigts dans une boîte à fusibles et en disant « I am free » et se griller les doigts dans une boîte à fusibles. C'est une assez jolie scène. Et voilà, on est toujours dans ce fantasme quand même de dire « Oui, mais si des robots ou si des algorithmes prenaient en charge l'ordre à notre place, les choses se passeraient peut-être mieux, ça serait débarrassé de l'aléatoire humain. » Et vraiment, avec ce qui se passe aujourd'hui sur Internet ou sur les réseaux sociaux, on est en plein dans ces problématiques-là. Et finalement, ce qui se passe une fois que donc, Robocop a toutes ses directives dans le cerveau, ça fait qu'il va donner des cours de nutrition à des mômes qui viennent de tabasser un pauvre vendeur d'articles de sport, si ma mémoire est bonne. Voilà, sans se préoccuper du fait qu'ils aient tabassé le vendeur, mais en disant, et maintenant, quelques cours de nutrition, alors que c'est pas vraiment... Et c'est ce qu'on voit aussi sur Facebook, c'est quand on va censurer l'origine du monde et aussi la petite fille au dos n'a palmé. Ça pose le problème de quand on délègue quelque chose par solution de facilité à des machines ou à des algorithmes, finalement, on arrive à créer des situations qui sont pires que celles qu'on avait voulu éviter. Ça pose vraiment un problème de responsabilité humaine, pour le coup. Et c'est ce que tu disais aussi sur le drone, c'est comment on veut se dédouaner de quelque chose en, quelque part, diluant notre responsabilité.
Ça avait peut-être déjà commencé avec n'importe quelle guerre à distance, l'arc et les flèches, le fusil, et puis maintenant d'autres choses, et toujours plus loin, le missile. Mais la question de la déshumanisation, en effet, me semble très importante. Dans une certaine mesure, on se décharge de sa culpabilité. C'est vrai que par moment, dans une guerre, on peut se trouver face à un ennemi à qui on va laisser la vie sauve. On peut encore avoir un geste d'humanité. La machine n'en aura jamais. Il suffit de lui donner un ordre. Elle l'exécute. Et à la limite, on a l'impression que ce n'est pas l'homme qui l'exécute, c'est la machine, d'autant plus qu'elle est capable de peut-être éviter les tirs qui la concernent, de déjouer certains pièges et finalement d'attaquer. Donc on la voit résoudre ces problèmes-là tout seul, on la voit agir sans absolument rien faire. Elle réussit ou pas, mais donc finalement on n'est pas responsable.
Après, il y a, dans ceux qui poussent la réflexion un peu plus loin, dans la toute jeune génération, pour le coup, de réalisateurs, il y a deux films qui me paraissent vraiment pousser un cran au-dessus, si on peut dire, le problème. Donc, c'est notamment, je ne sais pas si vous avez vu Chappie, de Neil Blomkamp. C'est l'histoire de la création d'une police robotique dans une Afrique du Sud où tout va mal, donc ce n'est pas très différent de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Et l'un des robots policiers qui sont programmés pour le maintien de l'ordre se retrouve aux mains donc, d'un gang qui d'abord va le déprogrammer pour en faire un membre de gang parfait. Mais finalement, c'est qu'une autre programmation. Et puis, il y a une des femmes du gang qui va, elle, lui donner une éducation, qui va lui faire lire des livres. Et à la fin, finalement, Chappie va se révéler quelque part plus humain que les humains autour de lui. Et c'est cette intelligence artificielle qui a pris le contrôle d'elle-même, en quelque sorte, qui va donner une leçon d'humanité aux humains. Et ça, ça amène les choses encore un cran plus loin. Et c'est aussi la réflexion qu'il y a, par exemple, dans le livre IRL d'Agnès Marot. Il y a aujourd'hui... cette question que posent certains jeunes auteurs, certains jeunes réalisateurs, est-ce que les intelligences artificielles, si elles deviennent éduquées, si on leur laisse une marge de manœuvre, elles ne peuvent pas nous réapprendre l'humanité que nous aurions perdue ?
Ou nous obliger à nous interroger là-dessus sans forcément nous apprendre, mais nous obliger à réagir à partir de là.
Voilà, c'est vraiment, finalement, ces intelligences, ces IA laissées un peu libres, et ces IA à qui on a donné de la culture, à qui on a donné de l'apprentissage plutôt que de donner des ordres, vont recréer une humanité, une forme d'humanité qui est très intéressante, et on va sortir justement des solutions binaires, tout blanc ou tout noir. Et c'est vraiment donc ce qui se passe à la toute fin de Chappie, où il y a une nouvelle fusion du robot et de l'humain que je ne dévoilerai pas ici pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais qui, si vous êtes un tout petit peu émotif comme moi, peut vous tirer des larmes.
Je pense qu'on a beaucoup parlé d'un premier versant des robots flics, qui était le robot flic finalement qui a à gérer de la violence, qui a à régler des problèmes de rue, plus ou moins de rue ou de guerre. En tout cas, on est parti sur l'aspect flic, vilain flic, quoi, enfin celui qui tape. On a aussi un autre aspect du flic qui est le fin limier. Sherlock Holmes n'est pas un policier, mais on a quelques policiers. On a la police scientifique, on a des policiers qui ont pour rôle d'enquêter, d'utiliser leur intuition, par exemple, pour résoudre des crimes divers et variés. Et je me demandais dans quelle mesure ces robots policiers sont également présents dans la science-fiction, à la fois en littérature et en cinéma.
Je suis d'accord avec toi qu'il faut... Enfin, c'est pas qu'il faut recadrer, mais quand on dit le flic robot, et en plus, comme il y a Robocop, forcément, la première, et drone, on pense d'abord à l'administration de la violence. Moi, il y a une question que je me posais qui est en lien avec ta suggestion, c'est qu'on pourra peut-être aborder plus tard, du coup, mais c'est est-ce que... parce que là, on a implicitement suggéré que, en fait, à travers la question de la violence par voie robotique, on a implicitement suggéré qu'en fait, elle se posait en gros de la même manière dans le cadre militaire et dans le cadre policier. Et je me demande sincèrement si c'est le cas. Il y a globalement la question de la violence d'État qui s'exerce par l'armée, disons, pour simplifier, sur l'extérieur, alors que la police, il s'agit d'utiliser une violence à l'intérieur. À l'intérieur d'une société. Et évidemment, il y a des questions communes qui sont posées, mais il y a peut-être aussi des questions distinctes. Alors, il y a déjà une première question qui est que, en général, on considère que le type d'arme et le type de violence qu'on va administrer à l'extérieur peut être plus violent, plus radical que la violence qu'on s'autorise dans un cadre policier. Alors après, on peut évidemment, après ça dépend des pays, ça dépend des situations. Il y a les bobies qui, je ne sais pas si c'est encore le cas, n'avaient même pas le droit d'avoir une arme à feu. Et vous avez à côté de ça, nous on a les gendarmes, et puis vous avez aussi des pays où ils utilisent ce qu'on appelle justement des armes de guerre. Et alors ça pose du coup, je pense, la question du drone, puisque pour l'instant les drones, on en parlait, mais les drones ne sont utilisés pour administrer la violence que dans le cadre de conflits guerriers et pas dans le cadre de la police. Donc est-ce que ça viendra un jour? Est-ce que c'est peut-être, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que c'est déjà arrivé? Alors voilà, donc ceci étant dit, effectivement une autre chose qui distingue le policier du militaire, c'est que, disons que parmi ses fonctions, il n'y a pas seulement le fait d'administrer la violence, et il y a effectivement donc l'enquête. Il y en a une troisième que je réserve pour plus tard, et si on a le temps, j'aurai même une petite vidéo à proposer. Mais donc, pour l'enquête, moi, ça m'a fait penser par rapport à la question de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est un personnage très intéressant. J'ai un collègue qui sera peut-être invité à l'occasion ici, qui s'appelle Pierre Kassounogues, qui est un philosophe de l'Université Paris 8 et qui est quelqu'un de très intéressant, puisque autant moi, comme philosophe, j'utilise la science-fiction pour réfléchir en philosophie, mais lui, depuis un certain nombre d'années, maintenant, fait de la philosophie-fiction et crée des fictions. Moi, j'utilise essentiellement des fictions préexistantes, mais lui écrit des œuvres de fiction pour réfléchir de façon philosophique. Mais dans ses lignes de réflexion, il a travaillé sur le personnage de Sherlock Holmes, et il l'interprétait justement comme une espèce d'incarnation humaine de quelqu'un qui se comporte comme un robot. Et c'est d'autant plus intéressant que dans Star Trek, vous avez le personnage de Data, qui lui est un robot, mais qui, à la recherche de son humanité, est fasciné. Et il y avait un moment une photo qui, dans une des autres tables rondes, où on voit Data avec la pipe de Sherlock Holmes, Data, à la recherche de son humanité, est fasciné par le personnage de Sherlock Holmes, qui est une espèce de... Alors, pas d'objet transitionnel, mais de personnage, en fait, transitionnel pour lui, qui a sans doute suffisamment du robot en lui pour lui servir d'être intermédiaire, qui va lui permettre, notamment à travers le système de réalité en 3D, je ne sais plus comment ça s'appelle dans Star Trek, voilà, il incarne dans des fictions en réalité 3D le personnage de Sherlock Holmes, et ça lui permet, à travers une enquête qu'il déroule de façon totalement déductive à la façon de Sherlock Holmes, de s'approcher de quelque chose qui serait son humanité.
Ben, le premier robot détective, enfin, c'est peut-être pas le premier, mais c'est au moins le plus connu, c'est chez Asimov, Face au feu du soleil et les cavernes d'acier, hein, où donc le robot d'Anil Olivo, qui est donc le co-enquêteur, voilà. Donc on avait déjà ce genre de détective robot. Pour ce qui est de ce que tu évoquais par rapport aux militaires et aux policiers, il faut savoir que, déjà aujourd'hui, la police s'inspire des méthodes de l'armée pour intervenir dans le tissu urbain. L'armée a bien travaillé là-dessus. Comment mener une guerre dans une ville où il y a des civils? Et pour répondre à des attentats terroristes, traquer quelques militants excessifs, la police va adopter les mêmes méthodes. Donc ce n'est déjà plus tout à fait de la fiction. Je rappelle d'ailleurs que le 8 juillet de cette année, par rapport au fou furieux qui avait tiré à Dallas aux États-Unis lors des émeutes raciales, c'est bien un robot qui a abattu l'émeutier. Ce n'est pas un policier qui est intervenu, on a bien envoyé un robot qui a tué. Et là, on n'est pas du tout sur une scène de guerre, on est bien dans une intervention policière. Et de plus en plus, d'ailleurs, il me semble que les États-Unis, depuis plusieurs années, développent divers types de robots pour intervenir sur divers terrains. C'est utilisé, bon, en ce moment en Irak, enfin, ça a été utilisé en Irak et autres, mais ça permet aussi de les envoyer dans les immeubles de grandes métropoles, y compris aux États-Unis. Donc, ça pose la question de la sécurité, et c'est en train de se généraliser. Dubaï va être équipé d'une armée de police robots pour 2020 pour l'exposition universelle. Il va y avoir quelque chose comme 450 robots commandés. La Chine a déjà ses robots anti-émeutes. La prison britannique utilise également des drones pour la surveillance, pour voir si les prisonniers s'évadent ou pas. Donc ça se généralise. Hein.
Sur, disons, les policiers robots aussi, l'argument qu'on entend aujourd'hui beaucoup, la demande beaucoup qu'on entend dans les pays occidentaux des demandes de policiers, c'est toujours sauver des vies. Donc sauver des vies de policiers et donc rajouter de la vidéosurveillance ou donc rajouter justement plus de machines pour sauver des vies. Et simplement, cet argument-là, il est à la fois évidemment... hyper moral, donc c'est très difficile d'aller contre, mais d'un autre côté, c'est un argument qui, justement, on entend dans la science-fiction depuis Robocop et même avant. C'est déjà les grèves de policiers dans Robocop. En fait, il y a les mêmes slogans que ceux qui reviennent aujourd'hui aux États-Unis ou en France, et c'est ces mêmes slogans qui arrivent donc ici et qui justifient ici déjà, par exemple, la vidéosurveillance qui s'étend de plus en plus. Et sur la différence entre l'ordre policier et l'ordre militaire, il y a quand même. Bon, pas forcément aux États-Unis où il y a des polices maintenant de plus en plus militarisées aussi. Il y a carrément des endroits où ils ont des chars, de l'arme lourde. Enfin bon, on se demande parfois ce qu'ils en font. Mais il y a quand même par moment une envie d'un ordre feutré, en quelque sorte, qui se voit pour l'instant plus dans tout ce qui est surveillance, mais qui commence avec la surveillance et qui peut s'étendre plus loin. Bah, ne serait-ce que maintenant, notre passe Navigo dans le métro parisien peut dire où on est allé et suivre tous nos déplacements. Et finalement, on est... Il suffit de tirer ça un tout petit peu et on arrive aux voitures de Minority Report qui peuvent se refermer sur leurs passagers si leur passager est tout à coup déclaré potentiellement coupable d'une infraction et qui tout à coup peuvent elles-mêmes jouer le rôle de robots policiers en amenant leurs passagers jusqu'au commissariat, donc le plus proche. Et il y a déjà, disons, des choses contre lesquelles la science-fiction nous a mis en garde depuis quand même pas mal de décennies, qu'on voit arriver peu à peu dans nos sociétés occidentales. Donc il faudrait peut-être voir certaines œuvres ou relire certains livres, ça ferait du bien.
C'est vrai que Sylvie avait présenté tellement de thèmes qu'on n'a pas eu le temps de tous les aborder. Il y avait donc le côté de l'enquête, et nous sommes dans une société de contrôle, ça on le sait bien depuis un bon bout de temps, et ce contrôle est en train de s'intensifier. Bon, ça on le sait avec déjà la multiplication des caméras, la multiplication des radars qui maintenant ne se contenteront plus seulement de mesurer la vitesse. Et cette société de contrôle fait qu'on a presque, on risque d'arriver à une sorte de tissu urbain qui est la ville autonome, dans laquelle il y a des entités humaines qui la font fonctionner et que l'on contrôle. Lorsqu'elles sont indésirables, ben on s'en débarrasse, on les met à l'écart pour un temps.
C'est la série de post-apo, je ne sais pas si vous avez lu, de Thomas Gea, Alone contre Alone, dans lesquelles les villes sont plus vivables, parce qu'il y a des mini-robots qui étaient là au départ pour nettoyer les villes, pour les rendre propres. Et à force, quand on veut rendre les villes propres, ça a fini par chasser les humains des villes. Et donc, on a, au milieu de terres dévastées où survivent les derniers humains, des villes qui sont des modèles de propreté incroyables, parce que justement, les robots les maintiennent propres, mais finalement, en ayant chassé les humains.
Peut-être pas tout de suite. Ouais.
Enfin... Alors, oui, le problème, c'est qu'on se... on substitue au jugement humain l'ordre de la machine. On croit toujours, justement, augmenter la sécurité pour ça. On dira la sécurité du policier. On croit augmenter l'efficience et l'efficacité. Mais on évacue complètement tout ce qui est de l'ordre de l'humain. Et une société où les règles et les lois ne sont plus... elles devraient être toujours un petit peu fluctuantes. Des raisons parfois d'être moins sévère envers quelqu'un, ceci n'existe plus puisque la machine va exécuter ça jusqu'au bout. Alors en ce moment, c'est énormément discuté. Il y a l'ONU qui s'est déjà réunie sur cette question. Il y a Amnesty International qui est contre l'usage d'armes létales ou de contrôle, entièrement autonome, évidemment, à des fins de contrôle de population ou de l'État, parce que ce serait des gouvernements qui n'ont absolument pas à rendre de compte aux citoyens. Lorsque une machine commet une erreur ou une bavure, lorsque la bavure est policière, souvent ça se passe assez bien, là, après, on va accuser qui ? Le bug informatique, une mauvaise programmation, on n'en sait rien. La crainte, également, est qu'on peut toujours détourner et pirater ce genre de machine. Donc personne n'a encore pensé au problème des hackers. On croit toujours que ça va être bien pour la sécurité, mais ça va générer des problèmes nouveaux. Ça peut aussi, éventuellement, générer une nouvelle course aux armements, où l'on aura des missiles antimissiles, si on veut, au niveau du robot ou de la machine de contrôle de l'humain.
Je pense qu'il y a aussi un argument intéressant. Il apparaît, enfin moi en tout cas, je fais un parallèle entre un épisode de Star Trek, la série originale, et un témoignage, enfin quelque chose qui se sait en fait, que j'ai entendu plusieurs fois quand les gens parlent des différences entre l'armée française et l'armée américaine. C'est que on peut s'imaginer, en supposant qu'il n'y a pas de problème de mauvais fonctionnement, qu'il n'y a pas de hacking, on pourrait s'imaginer, et en supposant, voilà, même s'il n'y avait pas de soucis et même si on avait des super robots qui font bien le travail, le problème, c'est que c'est des robots. Et que dans le rapport à quelqu'un qu'on veut désarmer ou rendre inopérant, le fait d'avoir un humain en face de soi, ça peut faire une grande différence. Alors il y a déjà, dans l'éthique de la guerre, les soldats peuvent avoir affaire à des gens, et ça a été l'éthique de la guerre pendant des milliers d'années, qui considèrent que un combat est digne d'être mené ou arrêté que si on a en face de soi un autre être humain qui risque sa vie. et le problème de l'utilisation des drones, et qui pose d'ailleurs des problèmes psychologiques aux gens qui dirigent les drones, c'est qu'ils ne sont pas dans un rapport d'égalité en termes de mettre sa vie en jeu. Et du coup, les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors effectivement, c'était déjà le problème de l'utilisation de l'arbalète, des arcs et des flèches. C'est un problème, disons, crucial dans la réflexion sur la guerre, mais avec l'utilisation des drones et de technologies de plus en plus sophistiquées, on a ce problème-là. Et donc, ce que j'ai entendu plusieurs fois, alors plutôt de la part de militaires français expliquant à quel point ils étaient bien meilleurs que les militaires américains, c'est que on dit aux militaires français qui sont dans des terrains extérieurs que s'ils ont à interagir avec la population, parce qu'en fait, les soldats ressemblent à des robots déjà. Ils sont harnachés des pieds à la tête, ils ont un casque, ils peuvent avoir des systèmes de vue infrarouge. Et donc, s'ils ont à interagir avec des gens, ils doivent enlever leur casque pour pouvoir avoir, en fait, pour avoir de l'eye contact, pour pouvoir avoir un rapport d'humain à humain. Et apparemment, c'est quelque chose qui est très important dans l'armée française et que les gens essayent effectivement de faire. Et certaines personnes expliquent, alors je ne fais que répéter des choses que je ne suis pas allée vérifier, mais expliquent le fait que les rapports entre les militaires français et les populations sont bien meilleurs à cause de ce genre de détails auxquels on prend garde. Et alors, le parallèle que je voulais faire avec cet épisode de Star Trek dont je me souviens pas du titre, mais c'est à mon avis un des meilleurs épisodes de Star Trek, ou enfin de la première série en tout cas, c'est Kirk qui arrive sur une planète, il y a une double planète et ils se font la guerre depuis toujours, mais ils savent plus trop pourquoi ils se font la guerre. Et ça fait tellement longtemps qu'ils se font la guerre et ils ont une technologie tellement au point qu'ils sont arrivés à une espèce de statu quo où ils ne se détruisent pas pour de vrai leurs différentes installations. Ils se contentent de passer par une espèce de war game. Et quand il y en a un qui, dans le war game, a dans l'univers virtuel, réussit à toucher telle ou telle installation, les gens qui se trouvaient dans la zone doivent, de leur propre chef, aller se faire tuer dans une espèce d'incinérateur. Et en fait, Kirk dit, mais vous avez rien compris à la guerre. Si on ne voit pas les gens mourir, si on ne voit pas le sang, si on n'est pas dans le drame, la tragédie de la guerre et la partie profondément humainement tragique de la guerre, vous n'arrêterez jamais votre guerre. Voilà. Et donc, il essaye de leur faire la morale sur ce point. Et cet épisode est très intéressant à mettre en rapport avec un épisode qui est très proche dans la chronologie de Star Trek, qui met en scène l'espèce de némésis de Kirk qui est Khan et qui lui-même défend une espèce d'éthique de la virilité. Et là, pour le coup, c'est quasiment la même thèse, mais Kirk se trouve presque à défendre la thèse inverse.
Ça rappelle déjà Le Rouge et le Noir, où le personnage qui rêvait de hauts faits militaires et autres, lorsqu'il se retrouve sur le champ de bataille, il se dit, c'est ça la guerre, l'odeur de poudre du canon, les cris, les hurlements, le sang, et puis tout d'un coup, il a tout à fait une autre vision de la guerre et de la bataille. Si aujourd'hui ça ressemble beaucoup à un jeu vidéo, je pense à un roman tout à fait marquant qui date des années 80 et avant c'était une nouvelle tout début en 81 ou 82 de Orson Scott Card, bien évidemment, La Stratégie Ender, qui est devenu un film aujourd'hui, où c'est tellement un jeu vidéo et que les gamins étant peut-être meilleurs qu'un adulte pour jouer à ça, sont eux qui livrent la guerre. Le gros problème, c'est qu'on ne les en informe même pas. C'est-à-dire qu'ils deviennent des tueurs et des tueurs d'une civilisation complète sans avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Et ensuite, et bien sûr, ils auront le poids de cette culpabilité, ils la traîneront toute leur vie. Le problème de cette extension avec la machine, nous avons des outils technologiques qui sont une part de nous-mêmes. Au départ, c'était un fil de téléphone. Maintenant, on n'a même plus besoin du fil. Mais ce sont des machines qui nous permettent de faire ce que l'on a envie de faire. C'est une extension de nous-mêmes. Et ces extensions de nous-mêmes nous rendent un petit peu irresponsables. Je suis quand même assez frappé de voir que, par exemple, le bourreau aux États-Unis ne tue pas directement l'individu. Avant, on avait un bourreau, mais il était obligé de rester anonyme. Il ne faisait que son travail, parce qu'on lui demandait de faire ça. Et donc aujourd'hui, on abaisse une manette où on appuie sur un bouton, s'il s'agit d'une injection létale, qu'est-ce que ça changerait si jamais le bourreau qui doit juste appuyer sur le bouton avait à la place une seringue dont il doit enfoncer le piston ? Ça ne sera pas la seringue elle-même, mais ça commanderait le mécanisme qui permet d'aller injecter le produit létal dans le corps du condamné à mort. On s'éloigne un petit peu de l'individu pour justement ne pas avoir cette empathie. Alors, les partisans des robots tueurs avancent justement cet argument que l'absence d'émotion enlèverait les qualités humaines négatives telles que la peur, le désir de vengeance, c'est-à-dire les mauvais comportements d'un policier qui a envie de frapper quelqu'un et d'une manière un petit peu gratuite, ça n'existerait pas parce qu'il serait entièrement juste. D'un autre côté, on appliquerait la loi avec une telle violence que ça en devient grave. Et alors peut-être que demain, on n'aurait qu'un bourreau robot qui se contenterait d'exécuter les châtiments sans qu'aucun humain n'intervienne.
Sur le côté des bourreaux, de toute manière, déjà, le bourreau en tant que tel, c'est une délégation de responsabilité à quelqu'un qu'on exonère par avance des crimes qu'il va connaître. Quelque part, le bourreau avait déjà, du temps où il y avait des bourreaux, notamment dans l'Ancien Régime en France aussi, c'était déjà même après, c'était déjà quelque part quelqu'un qu'on chargeait d'exécuter, entre guillemets, donc comme c'était le bras de la justice. Donc, comme une sorte d'immense prothèse humaine, les condamnations à mort. Et là-dessus, il y a une très chouette série de mangas, si vous ne connaissez pas, qui s'appelle Innocent, qui est sur les bourreaux de la famille Samson. Et comment, en fait, ils se débattent avec à la fois leur devoir et leur notion de responsabilité, comment ils cherchent à garder leur humanité au travers de tout ça. Mais comment, finalement, ce qu'on dit à un bourreau de fer ou ce qu'on dit à un robot de fer, ça questionne beaucoup plus la civilisation qui donne un ordre que le bourreau ou que le robot lui-même. Comment finalement, quand on se décharge de la responsabilité sur quelque chose en disant « oui, un fantasme de pureté, de perfection, c'est une machine, donc en effet, elle ne va pas être sujette au désir de vengeance, elle ne va pas être sujette à tout ce genre de choses », on essaye juste de projeter un fantasme de pureté sur une machine ou sur un algorithme en oubliant que quelque part, il y a avant tout un être humain qui l'a programmé. Et ça permet de donner une distance à quelque chose qui est très intéressant dans les Robocop entre le 1 et le 2. C'est le 1, surtout quand il est en robot. Murphy, il est toujours filmé de manière très, très iconique. Il est hyper mis en valeur. Donc là, il a presque le côté chevalier, justement. On en a fait un chevalier des temps modernes. C'est une figure christique qui doit rédimer la ville de tous ses péchés. Et là, en effet, c'est comme si la ville se déchargeait de sa responsabilité sur Murphy. Et puis, il y a cette scène géniale où Verhoeven le monte tout cassé sans son masque et avec sa collègue qui le nourrit de petits pots pour bébé. Et tout à coup, c'est ça, c'est on a voulu, nous, humains, mettre tous nos problèmes sur le dos de ce cyborg. Et en fait, c'est une machine semi-humaine brisée qu'on nourrit de peau pour bébé, quoi. Donc tout à coup, on revient à l'humanité la plus basique. Et là, Verhoeven nous rappelle, et attention, au final, on est toujours dans une histoire humaine. Et c'est quand on oublie qu'il y a des problèmes qui commencent.
Sylvie, tu voulais...
Oui, alors, on n'a pas beaucoup parlé du robot détective, mais je pense que c'est peut-être parce que ça pose moins de problèmes éthiques. Évidemment que le robot tueur, le rapport à cette violence. Alors la police ne fait pas que des enquêtes ou courir après des gens pour les tuer, ce que normalement elle ne fait pas. Mais elle fait aussi d'autres choses, et donc il y a un vrai robot qui a été, qui existe et qui a été, inventé par une femme en plus. Et c'est d'autant plus intéressant parce que on a l'impression que la technologie et que l'innovation technologique, elle est toujours en Occident, mais il y a aussi des innovations intéressantes qui se passent ailleurs.
Cet engin est développé par une Congolaise. Il a pour mission de régler la circulation automobile et ça marche. Voyez le reportage à Kinshasa des journalistes de l'AFP.
Vous pouvez laisser les passages aux piétons.
Ce robot de 2,50 m de haut fait désormais partie du quotidien de l'IMET, quartier populaire de Kinshasa. Mis en service fin juin 2013, il a pour objectif de réguler la circulation et sécuriser le passage des piétons. À l'origine de cette machine, Woman Technology, une association fondée pour aider les femmes congolaises ingénieures. Thérèse Inza est à la tête d'une équipe de 7 personnes et finance grâce à sa propre société le premier Android. Elle espère pouvoir créer des emplois, mais aussi inonder le marché international.
Il y a plusieurs robots au monde, hein, il y a plusieurs robots, mais étant donné qu'un robot qui est en train de faire la sécurité routière, un robot qui est en train de faire la régulation routière, c'est vraiment Made in Congo. Alors nous aussi, nous devons prendre aussi notre intelligence pour faire vendre ça aussi dans d'autres pays, de l'Afrique centrale comme aussi ailleurs, pourquoi pas aux États-Unis, pourquoi pas en Europe ou en Asie.
Le coût de fabrication d'un exemplaire avoisine les 15 000 $. Muni de panneaux solaires pour assurer son autonomie et conçu en aluminium pour résister au climat équatorial, le robot est doté d'une électronique poussée.
Quand les robots captent les images à l'aide de la transmission IP, ils envoient ça au centre et c'est dans le centre qu'on est en train maintenant de stocker les données. Et ces données permettront maintenant de poursuivre les gens qui vont faire des infractions.
À terme, ces données seront envoyées à la police, un bon moyen de faire chuter les accidents, mais aussi de générer des recettes pour l'État. Madame Inza compte vendre son produit aux collectivités grâce à ces deux arguments. Dans cette mégalopole de 10 millions d'habitants, la circulation est chaotique, le code de la route pas toujours respecté et les policiers très fortement contestés. Mais ce robot fait pour le moment l'unanimité.
Le robot est bien lorsqu'il ferme la circulation. Vous remarquez que tout le monde s'arrête et les piétons traversent sans problème. Que Dieu bénisse ceux qui l'ont inventé. Les policiers nous tracassent trop. Qu'on laisse seulement les robots travailler.
Un robot apprécié et écouté, une circulation plus facile dans les rues de Kinshasa, mais pas encore de quoi conduire les yeux fermés.
Alors comme il nous reste 7 minutes, je pense qu'on va... Ah, Claude.
Oui, je vais juste finir sur le côté enquête. Il y a évidemment les big data qui peuvent explorer toutes les données. Il y a évidemment des lois informatiques et libertés qui nous empêchent, qui empêchent de trop croiser les fichiers. Mais lorsque l'on veut mener une enquête, eh bien évidemment, je crois qu'un gouvernement n'a pas trop de problèmes pour le faire. Il n'y a qu'à se souvenir de la petite bataille qu'il y a eu avec, je crois que c'était avec Facebook, qui ne voulait pas délivrer ses données pour mener des... C'était Apple qui ne voulait pas donner ses données, ses informations à la police. Donc il y a un moyen de mener des enquêtes avec tout ce que nous faisons au moyen de nos outils technologiques et puis même avec nos propres déclarations, la CAF, l'URSSAF ou tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'enquête. On peut donc programmer des machines pour enquêter sur la vie d'un individu et on peut déjà aujourd'hui, au moins aux États-Unis, retracer la carrière d'une personne et deviner à quel moment elle a par exemple basculé dans le terrorisme. On ne peut pas encore le prévoir, c'est en train d'être prévu. Les meilleurs pour ça sont les Mormons qui commencent à étudier un petit peu le caractère des gens et des choses comme ça et qui ont des moyens informatiques très gros. Donc pour essayer de détecter une personnalité déviante à partir d'un ensemble de messages, de mails et autres, on est en train d'essayer de développer des outils qui un jour permettront de contrôler et même de prévenir avant même que l'individu n'en ait conscience qui risque de basculer... du mauvais côté de la force, quoi, voilà.
Juste sur le robot enquêteur, quand même, je pense qu'on ne peut pas terminer cette table ronde sans parler d'Emma, le merveilleux flic androïde de TF1. Création française, voilà. C'est... Et qui peut laisser certains fans de SF dubitatifs.
Merci à toi. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Trois. Alors, on va essayer de faire très vite parce qu'on a... Alors.
Je vais aller super vite. Là, en fait, on part sur des concepts où on a des flics humains qui sont remplacés par des robots ou des cyborgs ou des androïdes, etc. Mais quelque part, la SF nous montre aussi que on a des humains qui vont finir par être conditionnés comme des robots. Je pense à Equilibrium, je pense à Judge Dredd notamment, où finalement l'application de la loi, elle est faite par un être humain. Hein, j'étais sûr que vous diriez ça. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de différence en fait avec le fait que ce soit un robot. Donc quelque part, est-ce que la machine est l'avenir de l'homme, mais est-ce que quelque part c'est pas l'homme qui va penser comme une machine qui n'est pas censée penser à la base, qui sera finalement l'avenir de l'avenir?
L'effet feedback, effectivement. Comme nous avons inventé la machine, finalement on a mis quelque chose de nous dans la machine et puis la machine nous le renvoie et on a bien aussi, oui, une petite pensée mécanique.
Alors moi, je dirais même plus que ça. C'est vrai que quand j'entends les gens s'inquiéter de l'introduction des robots dans la société, je pense que Je pense qu'il y a souvent quelque chose qui est un petit peu négligé, mais qui a peut-être été abordé dans une des tables rondes sur l'homme rouage d'une machine. C'est que, en fait, il faut réfléchir à la notion de machine, et la machine n'est pas nécessairement faite de métal. Et l'administration est une énorme machine qui broie les gens. Et je pense que tout le monde, moi ça m'arrive quand même malheureusement régulièrement, tout le monde a été confronté à un être humain qui en fait dénie sa propre humanité dans les réponses robotiques qu'il peut vous donner, parce qu'il se contente en fait de se protéger derrière la machine administrative et zapper en lui-même le fait qu'il pourrait y avoir un petit peu plus d'empathie, un petit peu plus de compréhension, un petit peu plus d'ouverture à des exceptions. Donc là où effectivement il y a quelque chose, donc la dimension machinique de la vie en société, elle existait déjà bien avant les machines. Maintenant, là où ça devient inquiétant, c'est quand les administrations se renforcent dans cet aspect machinique par l'utilisation de logiciels avec oui, non, ou c'est fermé. De toute façon, on ne peut même plus rentrer ces données, ou parfois la façon dont le questionnaire est formulé est absurde, et du coup, il n'y a même pas moyen de rentrer. Voilà. Et donc, on peut effectivement s'inquiéter du fait que alors c'est un petit peu au-delà des robots, mais que on risque d'être nos sociétés machiniques sont renforcées d'autant plus par cette machinisation de ces modalités de fonctionnement.
Oui, je te remercie de ton intervention, Sylvie, parce que tu me fais penser à quelque chose par rapport à l'administration et même au travail et à la déshumanisation. C'est que avant on parlait de robots, on disait qu'on devient des robots du moment que l'on se sent déshumanisé, mais le robot garde encore une certaine part d'efficience et d'efficacité. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que l'on glisse vers le bas, les gens ont plutôt tendance à se comparer à des zombies et non plus des robots.
C'est aussi, quand on parle justement à référence ciné, il y a cette idée qui commence à arriver que l'homme peut quelque part même être un meilleur robot que le robot. Et c'était le deuxième film dont je parlais tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps d'en parler. C'est Robot Overlord, je ne sais pas si vous avez vu. C'est en gros donc un ordre robotique qui vient mettre de l'ordre sur la planète. Et puis finalement, pour faire le sale boulot, pour faire la police de proximité, ils engagent des humains qui eux-mêmes, tout en profitant de la situation, se dédouanent de leur responsabilité en disant « oui, mais c'est le robot qui m'a donné l'ordre ». Et finalement, donc, pour des robots, même ils expliquent que l'humain, comme il est quelque part plus malléable encore, il va faire un meilleur robot que le robot parce que lui, il va même pousser les choses plus loin finalement qu'une machine qui est limitée par son système binaire. Donc voilà.
Alors, il est 29 et par respect pour le prochaine table ronde, je vais pas lancer de questions suivantes. En revanche, ce que je vous invite à faire, c'est que n'hésitez pas à prolonger la discussion avec nos intervenants en dehors de la table ronde. Je vous remercie vraiment de votre présence. Je vous remercie nos intervenants pour ces discussions et ces échanges très riches. Et puis bonne continuation à vous tous.
Et puis merci à la modératrice pour son travail de